Nous venons de lire dans l'évangile de Jean un très beau texte d'amour. Ça tombe bien pour un jour de baptême. En fait, ça tombe bien tous les jours de parler d'amour. Au début du culte, nous avons lu le psaume de David que l'on nomme aussi psaume du bon berger. Ce David, le roi David, est un personnage sympathique, jeune berger, guerrier courageux, roi, mais surtout poète. On lui attribue beaucoup de psaumes, c'est-à-dire des poèmes chantés. Il y a de tout dans les psaumes. Tout pour dire les sentiments humains. La joie, la peine, l'incompréhension, la colère, et même le désir de vengeance, dans des termes qu'on a du mal à imaginer. Ce qui est émouvant, c'est qu'on sait que Jésus a dit les psaumes. Au moment des grandes fêtes religieuses juives, au moment des pèlerinages à Jérusalem, à la synagogue, les jours de prière, plus tard, quand il est parti sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, il sortait la nuit dans la campagne environnante. Il sortait pour prier. Peut-être il priait les psaumes. Aujourd'hui, le psaume que nous partageons est un psaume de bonheur. Le Seigneur est mon berger. Cette image du berger et des brebis. Si on trouve les moutons trop bêtes, on peut penser à notre animal, les chèvres par exemple. Cette image du berger, Jésus l'a très souvent utilisée. Le berger qui prend soin, qui se fait du souci pour celle qui est perdue. Le berger qui défend ses brebis contre les dangers. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. J'aime beaucoup ce passage. Notre Dieu n'est pas un Dieu fatigant. Dans un passage de l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Venez à moi, vous les fatigués de la vie, je vous remettrai debout. » Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Nous savons bien que toutes les eaux ne sont pas tranquilles. Nous savons que les volcans font semblant de dormir, que les tsunamis arrivent sans crier gare, que l'homme joue les apprentis sorciers et pourrait bien détraquer la planète. Et surtout, nous savons bien le mal que nous subissons et le mal que nous reproduisons. Alors c'est quoi ces eaux tranquilles? Est-ce que cela serait un endroit préservé, hors du monde? Souvenez-vous de cette autre histoire de Jésus. Cela se passe sur la mer de Galilée. Jésus et ses amis sont dans une barque pour traverser et soudain, avis de tempête. Il peut y avoir des tempêtes terribles sur le lac de Tibériade. Le vent très fort fait giter l'embarcation. Les vagues menacent de faire chavirer. Et Jésus, que fait-il? Il dort. Ses amis le réveillent avec des reproches. « Nous coulons et toi tu t'en fiches !» Là, Jésus prend les choses en main et le calme revient. Jésus était là, avec eux, dans la vraie vie, qui comporte des dangers. Et pour moi, l'important ce n'est pas quand il commande aux éléments déchaînés. L'important c'est qu'ils dorment en toute confiance. Elle est totale cette confiance. C'est ce que l'évangéliste a voulu montrer, je crois. Mais continuons. Il me conduit par le juste chemin. Le juste. Vous savez que c'est aussi un nom que l'on donne à Jésus. Eh bien, le juste chemin, je crois que c'est le chemin de la confiance. Pas la confiance aveugle, qui ne veut pas voir la vie avec ses difficultés, mais la confiance éclairée. La confiance courageuse. Ce juste chemin, vous l'avez entendu, peut passer par les ravins de la mort. Le poète dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Oh là là, parler de mort un jour de baptême? Eh bien oui, et ce n'est pas si déplacé. Dans certaines traditions, on baptisait les chrétiens, on baptise encore, par immersion totale. Le futur baptisé était complètement immergé, même la tête. Et on le ressortait avec beaucoup de soulagement et de joie. Il était par ce geste symbolique passé de la mort à la vie. Maintenant, le geste est moins spectaculaire. Elona ne sait pas à côté de quoi elle est passée. Mais l'intention est la même. Montrer que par le baptême, nous passons de la mort à la vie. Et là, je me pose la question que je ne voudrais pas me poser, mais que je me pose pourtant. Et ceux qui ne sont pas baptisés, est-ce qu'ils sont vivants, eux? Est-ce que Dieu les aime, eux? Est-ce qu'ils sont sauvés, eux? Ces questions sont légitimes, il me semble. Ce sont les réponses qu'il vaut mieux regarder à trois fois. Parce que d'abord, nous ne sommes pas Dieu. On en connaît à qui ça a joué des très mauvais tours de se prendre pour Dieu. Parce que, ensuite, nous ne sommes pas Dieu. Mais des humains, limités, avec une compréhension limitée, avec une capacité de pardonner très limitée, et une capacité d'amour très très limitée. Parce que, enfin, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et la juste place qui nous est proposée est celle de l'enfant en confiance. Avec un tel père, je ne crains aucun mal, ni pour moi, ni pour les autres. L'Évangile est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Mais on pourrait se dire, à quoi sert le baptême alors? J'espère que je ne vais choquer personne. Il ne sert à rien. Il manifeste l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est tout. Nous avons lu dans l'Évangile de Jean un extrait magnifique de la prière de Jésus au moment de quitter ses amis. Un texte brûlant qui nous montre Jésus entièrement tourné vers le Père. Et cet amour déborde, et même merveille des merveilles, il déborde jusqu'à nous. Nous, quand nous aimons, c'est d'un amour blessé. Vous vous souvenez de la belle chanson d'Aragon chantée par Jean Ferrat. Mon bel amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Mais l'amour de Dieu, lui, n'est pas blessé. Il n'est pas blessé par l'inquiétude, la jalousie ou l'incompréhension. C'est cet amour-là, d'une générosité incroyable, qui nous est proposé aujourd'hui pour continuer le chemin de la vie. Notre Dieu est un Dieu proche. Non seulement il nous invite à nous approcher, mais c'est lui qui fait les premiers pas vers nous. Amen.